Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêts à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Alors par contre, on se sent-elle toute intéressante? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel sur le site radio-g.fr. 18e émission en direct. Bonsoir à tous. Alors je vous laisse le temps, vous allez tous allumer votre smartphone ici ou votre ordinateur. Oui, vous allez sur le site radio-g.fr. Là, il y a une petite invite pour pouvoir directement accéder au vote. Et vous allez pouvoir également voter ici dans le studio et de chez vous. Vous pourrez également voter pour écouter les chroniques. Allez, bienvenue dans DMT. Allez, on va commencer donc ce soir avec Caroline. Alors, Caro, qu'as-tu dans ton tiroir ce soir?
Bonsoir tout le monde, ça va bien?
Ça va.
Pas manger trop de chocolat ce week-end?
Ça va.
Eh bien, justement, moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé deux gros yeux de chocolat. Eh oui, hier c'était Pâques. Mmh. Alors, en voyant ces deux œufs tout seuls, eh bien ça m'a fait penser à vous les garçons. Bah oui, c'est bien ce que vous pensez, petit malin. C'est bien de vos œufs dont je parle, et donc de leur emballage. Mmh. Je veux bien sûr parler du slip kangourou. Alors, écoutez, le terme anglophone du to slip signifie glisser, puisque c'est un sous-vêtement facile à enfiler. Mmh. Savez-vous qu'avant la fin du XXe siècle, les hommes n'avaient pas encore de sous-vêtements sur eux? Alors au XIXe, à défaut de lingerie masculine, les hommes se servaient des pans de leur chemise pour les enfoncer dans leurs pantalons. C'était un moyen de limiter les frottements sur le pantalon.
Ok.
Alors, le mot « slip » apparaît pour la première fois dans le catalogue Manu France de 1906. Vendu 2 francs, ce sous-vêtement s'adresse avant tout aux sportifs. En 1958, le slip est recommandé dans l'armée française, puisque celle-ci estime que le caleçon est trop flottant. Alors, pourquoi le slip kangourou? Est-ce que vous avez une idée?
Le slip kangourou, pourquoi slip kangourou? Je ne sais pas, est-ce que ça, a rapport, c'est peut-être, ça vient peut-être d'Australie ou...
Ouais, je sais pas. Hein. Non, aucune idée.
Pourquoi ça s'appelle kangourou?
La poche.
Il n'y a pas de poche.
Non. Ah, il y a peut-être une histoire. une histoire de poche.
Eh bien oui, la fente transversale du slip rappelle la poche du kangourou.
Ah oui, d'accord.
L'idée de la poche kangourou ne vient pas d'Australie par contre. Hein. On doit en effet cette fente à l'Argentine, où lorsque les gardiens de troupeaux montaient à cheval, ils avaient besoin d'un slip renforcé pour garantir un confort absolu. Mmh. Alors une question qu'on a tous été menés à se poser, mais c'est quoi cette poche? Simple fantaisie ou réelle utilité? Alors, vous l'avez déjà utilisé les garçons?
Alors je sais pas, on va faire un petit tour de table. Olivier, est-ce que tu as déjà eu un slip kangourou et utilisé
non,
une poche?
Non, non.
Quentin?
Non plus.
On n'a pas trop utilisé ça
non.
Alors. Hein.
Non, je... hein toi, Bruno?
Non, peut-être à l'armée, peut-être, il y avait des slips kangourous, peut-être, mais c'était pas... Non, je n'ai pas trop utilisé, en fait.
Alors, il paraît que la poche est très utile sous un pantalon à fermeture éclair. Elle permet d'accéder facilement à, vous savez quoi, sans tout enlever. Alors, pour aller aux toilettes facilement, ou pour ce que vous voulez, de toute façon, je ne veux pas savoir. Cette poche aide donc à faciliter la vie... Cette poche sert donc à faciliter la vie des garçons et d'accéder rapidement et facilement aux parties intimes. Après, est-ce que c'est beau, voire excitant? Alors là, il y a débat. Hein. Alors les garçons, vous êtes plutôt slip ou caleçon? Et est-ce que vous avez eu des slips kangourous?
Alors, slip kangourou, non. Alors, slip ou caleçon, Olivier?
Ouais, plutôt... Bah, slip quand j'étais jeune, mais plutôt boxeur maintenant.
Le boxeur, ok. Mmh, Corentin?
Ouais, pareil, caleçon, boxeur.
Ok. Alors, Sandra, pas pour toi, mais peut-être pour les garçons, tu préfères slip ou garçon? Slip ou garçon? Slip ou caleçon?
Caleçon.
Caleçon? À fond caleçon. Bon, d'accord. Bah, écoutez, on va s'arrêter sur caleçon. Alors, merci Caroline.
Merci à vous.
Alors, vous pouvez donner votre avis sur le chat de Radio G. On arrive à 50%, Caro.
C'était chaud pour elle.
Oui, 75%. Ouh là là, on a failli avoir un stop là pour Caro. Mais c'est bon, on est passé, c'est parfait, bravo. Allez, vous pouvez donc donner votre avis sur le site radio-g.fr et également sur nous parler en chat, si vous voulez. Vous allez sur le site radio-g.fr et nous parler en direct. Nous, on voit directement le chat. On va continuer avec Corentin, sa première vraie chronique. Alors, qu'as-tu dans ton tiroir ce soir?
Bonsoir. Dans mon tiroir, j'ai trouvé une lettre procédurale du 15e siècle.
Oula !
À qui était-elle adressée, vous allez me dire? Eh bien, à des animaux, plus particulièrement à des insectes et des bêtes de ferme. Effectivement, en Europe, entre le 15e et 18e siècle, les animaux étaient eux aussi responsables de leurs actes et non leurs propriétaires. Cela peut vous paraître fou, et pourtant c'est bien réel. Cette particularité juridique a ainsi donné lieu à de nombreux procès, excommunications, exorcismes publics, condamnations à mort et autres jugements par contumace. En effet, selon les historiens, entre le 15e et 18e siècle, le nombre de procès augmente significativement et l'on dénombre, par exemple, 40 jugements rien que durant le dernier siècle. On observait alors deux types de procès. Le premier avait lieu dans des tribunaux laïcs et concernait majoritairement les animaux domestiques tels que les cochons, les chevaux, les bœufs, les coqs, etc. Ces derniers étaient la plupart du temps jugés pour des blessures ou des homicides. Ils étaient d'ailleurs à noter que 90% des bêtes traduites devant la justice en Europe étaient des cochons. Les animaux de petite taille, eux, tels que les insectes, limaces, sangsues, grenouilles, reptiles, corbeaux ou les rongeurs qui détruisent les récoltes, étaient davantage jugés par les autorités ecclésiastiques. À des exorcismes ou des excommunications. Bah, c'était au Moyen-Âge.
La sangsue devait être contente d'être excommuniée, tu parles.
Et Ce n'est qu'après l'essor de la philosophie des Lumières que ces événements deviennent moins fréquents.
Bah, tu m'étonnes.
Voilà.
D'où le film qui est sorti il n'y a pas longtemps.
C'est ça, c'est ce que m'expliquait Olivier tout à l'heure, qu'il y avait un film qui est sorti.
Ouais. C'était plutôt sur le ton de la comédie, mais c'était un film avec Danny Boone, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Les chèvres, je crois.
Les chèvres. Il y a pas longtemps. Ouais, pour l'accès à une chèvre. Ok, bah, effectivement, ça, c'est une époque bizarre quand même, hein.
Le Moyen Âge.
C'est pas de ma faute, c'est des insectes et en plus je peux les avoir.
C'est bizarre parce que on ne dirait pas que les animaux avaient
Une âme, oui, en plus.
Une âme, quoi. Oui. Donc, je suis étonné qu'on les juge.
Ils pouvaient pas trop se défendre, quoi, surtout.
Oui. Bah oui, c'est ça, oui. Bon, c'est très 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 étonnant. En tout cas, jusqu'à 25%, donc c'est bon, tu l'as, t'as pas eu de stop, donc c'est parfait. Olivier, qu'as-tu dans ton tiroir?
Moi, j'ai retrouvé une petite peluche en forme d'extraterrestre.
Oui.
Dans mon tiroir, et puis ça m'a fait penser aux extraterrestres. Alors, je sais qu'il y a tout à l'heure, là, tu as parlé de la série Le problème à trois corps.
Dans Topette.
Et donc, c'est cette actualité. Et ça m'a fait penser, donc, aux invasions extraterrestres à travers les films et à travers les séries. C'est très, très ancien, en fait, là, cette notion de guerre des mondes, je vais dire. Faut remonter notamment à la fin du 19e siècle avec le fameux roman écrit par H.G. Wells, un roman de 1898, La guerre des mondes. D'ailleurs, c'est lui qui avait aussi fait un roman de science-fiction, La machine à explorer le temps. Alors, faut se mettre dans le contexte. Fin 19e siècle, il y a beaucoup de recherches autour de Mars. On est persuadé que la vie sur Mars existe. En fait, les astronomes ont cru déceler des canaux d'irrigation au niveau de Mars. Et de là naît l'idée qu'il y a des Martiens sur Mars et qui vont peut-être nous envahir. Et aussi, au 19e siècle, c'est la prédominance de l'Empire britannique qui a tout colonisé quasiment sur la Terre. Ils ont tué quasiment toutes les, toutes les indigènes, tout ça. Mm-hmm. Et H.G. Wells se dit, ben, un peu la guerre des mondes, c'est un peu une critique justement de cet empire britannique qui fait sa loi dans le monde entier. Et il renverse un peu la tendance en imaginant un peuple, voilà, martien, qui vient conquérir la Terre et qui s'en prend principalement au Royaume-Uni, donc aux Britanniques, mm-hmm. en détruisant notamment Londres. Donc voilà, ça date quand même du fin du 19e. H.G. Wells, donc son livre, il a été adapté notamment à la radio en 1938 par Orson Welles. Mm-hmm. Alors, Orson Welles en fait avait fait une émission de radio, donc ça tombe bien, on a la radio. Il y a eu, alors moi j'avais cru jusqu'au bout qu'il y avait eu une panique générale lorsque ça avait été raconté à la radio. Et en fait, c'est une énorme légende urbaine, c'est une panique qui a été largement exagérée. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la presse écrite qui avait qui était contre la radio à l'époque. La radio était un média qui était voilà en pleine expansion. Ils avaient tendance à sucrer un petit peu les recettes publicitaires de la presse. Et en fait, la presse s'était déchaînée contre la radio en disant que voilà, vous imaginez, la radio fait n'importe quoi, ça peut déchaîner les passions. Et ça, c'est vraiment à cause des
fake news de la grosse
presse new-yorkaise. Voilà, c'était pour décrédibiliser les radios. Après, il y a eu plusieurs longs métrages, donc un en 1953. Et puis notamment le film de Steven Spielberg, La Guerre des Mondes, avec Tom Cruise, où là on suivait plutôt, c'est un film sombre, angoissant, crédible, où là le film s'attardait sur une famille banale, perdue dans un monde en déliquescence. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Steven Spielberg, c'est justement quelqu'un qui a fait beaucoup de films sur les extraterrestres, hein, alors, notamment E.T. Voilà, gentil extraterrestre.
Il était gentil celui-là.
Oui. Mais aussi, encore avant, il avait fait Rencontre du Troisième Type, où là, c'était vraiment une rencontre entre voilà une civilisation extraterrestre et terrien.
Et gentil aussi.
Et gentil aussi. En Invasion, vraiment là, méchant, là. toujours très manichéen. On a un film de 96, Independence Day. Donc le film de Roland Emmerich avec Will Smith. Alors à l'époque c'était un blockbuster. On avait des effets spéciaux incroyables. Il détruisait New York, mais donc c'était des vaisseaux gigantesques voilà, qui étaient au-dessus des grandes métropoles. Et c'était très 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 méchant. Et il y avait un patriotisme énorme des Américains. Enfin tout le film se passait aux États-Unis et c'était même le président des États-Unis qui arrivait avec un espèce d'avion de détruire le un petit peu le vaisseau mère des extraterrestres. Donc c'était très 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 américain. C'est hyper démodé maintenant, c'est hyper même mal vieilli.
Ouais, ça a un peu mal vieilli.
Peut-être. C'est clair. Par contre, ce qui n'a pas vieilli, c'est à la même époque, on a eu le film Mars Attack de Tim Burton, où là, c'était carrément une parodie de ces films d'invasion extraterrestre, sur le ton un petit peu de l'absurde. On avait des extraterrestres un peu absurdes. L'Amérique en prenait pour son grade. Et puis, juste à la fin, c'était très très drôle. Hein, je peux spoiler maintenant. Est-ce que vous vous rappelez comment mouraient les extraterrestres?
C'est une chanson, je crois.
Alors, dans Independence Day, ils mouraient à cause d'un virus. Mais là, c'était quand ils écoutaient du yodel. Il y avait leur crâne qui explosait complètement.
Tu m'étonnes.
Voilà, c'était très très drôle.
C'était pas comme ça dans les Gremlins non plus à un moment donné.
Dans les Gremlins.
Les
Gremlins.
Je ne sais plus.
Il chante aussi. Ouais, il y a des chansons. Les chansons qu'ils n'aimaient pas, ouais. Alors, je sais pas si ça les éclatait.
C'est vrai, il faudrait que je recherche, je sais plus. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi, alors là, c'est un film qui avait bien fait, bien foutu les jetons à l'époque. En 1982, c'était The Thing, un film de John Carpenter, où là, on était dans une base en Antarctique, là, et il trouvait, en fait, un vaisseau spatial, où il y avait, une forme, en fait, une créature protéiforme qui prend la place des humains, qui prend la forme des humains. Elle prend forme du corps.
Donc on savait pas qui était la chose, en fait.
On savait pas qui est qui et tout, et c'est vraiment paranoïaque comme film. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a comme série? Donc on a Le Diable à Trois Corps qu'il faut voir.
Le problème à trois corps.
Il y a eu trois séries qui ont marqué. dans les années 80, on avait bien sûr
X-Files.
V, là, qui était vraiment sur une invasion extraterrestre. Hein, on se rappelle tous, voilà, ils avaient forme humaine.
Alors, mais on se rappelle en fait, tous, je suis pas sûr. Corentin, V, ça dit quelque chose?
Les plus de 50 ans.
C'était des lézards, hein, parce
voilà,
qu'à l'époque...
En fait, ils ressemblaient à des humains, mais sauf que voilà, c'était
une peau.
Carapace, une peau.
Quand on l'enlevait,
c'était des lézards.
Ça se regarde encore.
Et qui mangeait des...
On peut toujours se regarder
non.
Ou...
Alors, plus, ouais. Bah, l'histoire est intéressante, mais les effets spéciaux sont d'époque.
C'était hyper kitschouné. ils ont fait un dérivé, oui, je crois, un reboot. Tu ne me contrediras pas, Bruno, mais tu as été fan dans les années fin des années 90 de Invasion Planète Terre.
Ouais, très très bien.
110
bien.
Épisodes. Oui. Gene Roddenberry, c'est celui qui avait fait Star Trek,
oui.
Je crois, c'est ça.
C'est le même. Mm-hmm. Et puis, ça, par contre, on peut le revoir.
Ouais.
Parce que c'était vraiment.
Ouais, là, c'était c'est un peu crédible, quoi. Moi aussi, c'était pas mal.
L'histoire était vraiment très crédible, ouais.
Et puis récemment, je sais que. Alors, je l'ai pas vu, je sais que sur Apple Plus, il y a. Alors là, ça, tout est dit dans le titre Invasion. Voilà. Et c'est autour de cinq personnages qui vivent en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Et ça suit, voilà, cinq personnes confrontées à une invasion extraterrestre.
Ok.
Et ça a l'air pas mal du tout.
Bah oui. Bon, Corentin, quel film, toi, d'extraterrestre, c'est?
Ouais, Invasion, ça a l'air pas mal.
Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y en a que tu as vu?
Il y a Alien? Non, c'est pas ça.
Alors oui. Ah oui, Alien, ouais, c'en
Alien,
est
Alien, c'était aussi fort.
Ouais, ouais, c'est Alien.
Non, je pensais aussi à Alien. Mais...
Alien. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors j'ai essayé de voir des films qui se passent plutôt sur Terre. Alien, ouais. C'est plus dans l'espace, mais, ouais. Mais c'est vrai qu'Alien, c'est un film culte sur les extraterrestres. Ouais, c'est énorme, quoi.
Aussi.
Mais aussi bien tous, enfin toute la série, j'adore. Le premier est très très bien, et culte. Et même le deuxième. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des super grands réalisateurs qui ont fait tous les Aliens. Il y a eu Ridley Scott, il y a eu James Cameron, il y a eu David Fincher, il y a même eu Jean-Pierre Jeunet.
Ils ont donné leurs pattes à chaque fois.
Ouais, c'est assez incroyable comme série.
Ok, j'avais pas mis les jingles sur les précédentes, on va remettre celui-là. Ah, non, ça passe pas. Donc ça voilà, donc c'était vraiment très intéressant.
Mais pas Joe qui veut.
Ben non, c'est vrai. alors attends, si je voulais faire, je sais pas lequel c'est, ça doit être peut-être celui-ci, je vais regarder. Non plus. Ah non, c'est celui-là. Ah voilà.
Ah,
voilà, bah oui, très bien. En tout cas, merci Olivier, effectivement, c'était très intéressant. Sandra, qui est en train de mourir, hein, directement. Qu'est-ce qui t'arrive, Sandra? Tu es malade?
C'est l'allergie, non? C'est rhume des foins.
C'est l'allergie.
Ah, c'est l'allergie qui commence. Eh ben voilà l'été avant tout le monde. On va resetter. Ça y est, on a resetté à 25%, donc c'était bon. On a resetté sur le site, donc vous pouvez toujours retourner sur le site radio-g.fr et noter la chronique de Sandra.
Et quoi, t'as dit?
Non, je dis noter la chronique de Sandra. Enfin, on peut te dire
oui.
Stop quand on veut.
D'accord.
Je te mets la pression
non,
un peu.
Non, j'entends pas trop dans le casque.
Ah, d'accord. Ouais. Alors, on t'écoute.
Eh bien, donc, il ne vous a pas échappé hier qu'on était le 1er avril. Et oui. Donc, dans mon tiroir, j'ai trouvé un poisson d'avril.
Forcément.
Donc, j'ai décidé, en fait, de vous compter, on va dire, le top 10 des meilleures blagues de l'histoire.
Ah, bien.
Mais avant cela, il faut savoir quand même que le 1er avril était avant le 15e siècle, le nouvel an.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, on fêtait le nouvel an, quoi, le 1er avril et non pas le 1er janvier. C'est donc en 1564 que Charles IX décide de fêter le nouvel an en 1er janvier. Sauf que certains étaient en désaccord et ont continué, du coup, à fêter la nouvelle année le 1er avril. Mm-hmm. Les gens ont commencé donc à se moquer d'eux et, du coup, on commençait à leur faire des farces ce jour-là.
D'accord, ok.
Voilà.
D'accord.
Et les blagues datent de plus de 6000 ans. Mais avant, on les appelait des farces. Et le mot blague rentre dans le dictionnaire dans les années 1800.
Ok.
Voilà. Donc, parmi les blagues qui ont fonctionné le plus sur le public. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, le 1er avril 1957, c'est la BBC qui diffuse un reportage sur l'arbre à spaghetti. Ça vous dit quelque chose ou pas?
Bah non, mais non. Mais c'est très drôle, effectivement, on imagine un arbre à spaghetti.
C'est vraiment, le reportage, il est en noir et blanc, c'est la récolte de spaghetti dans les arbres. Et c'est tellement bien fait, en fait, on voit les cueilleurs, en fait,
ouais.
qui tirent les fils.
Mais ça pourrait être, crédible, hein. Il y a des gens qui savent pas du tout comment on fait à manger.
Ouais. Oui, voilà. Moi, je l'ai vu, c'est bien fait, mais bon,
Tu sais que le spaghetti, c'est pas comme
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est dans la terre.
Mais
hein.
Bon, apparemment, voilà, ça avait bien fonctionné. En 1986, la Tour Eiffel déménage dans le futur parc de Disneyland Paris.
Oui. Alors ça, c'était un peu plus gros, quand même, hein.
Ah, c'est pas.
Ça aurait pu, parce que
pour laisser place à un stade de 35 000 personnes pour les Jeux Olympiques de 1992.
Mais bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour les Jeux Olympiques? Troisième poisson d'avril, c'est en 1992, c'est Richard Nixon qui annonce sa candidature de nouveau. Excellent. Voilà. Et là, les Américains étaient effarés parce que voilà, il y a eu le Watergate.
C'est ça.
Et du coup, il avait démissionné. Donc,
je pense pas que ce soit lui qui ait fait le poisson d'avril.
Ça, c'est drôle, ça.
Mais si, il paraît que c'est lui.
C'est lui?
Ouais.
Ah bah, il a une sacrée dose d'humour.
Oui,
alors,
oui.
Hein.
Et même, il avait mis. Alors, je sais plus la phrase parce que je l'ai pas noté, mais c'était je ne referai pas ce que j'ai.
D'accord.
Ce que j'ai fait.
Bien tenté.
Ouais. Et là, d'ailleurs, cette année, Trump pour poisson d'avril, c'était j'arrête ma campagne pour les élections.
Ouais, bah oui.
Pour pouvoir relancer les financements.
Moi, j'en ai vu qu'un cette année, un poisson d'avril. C'était Timothée Chalamet qui rachetait la S Saint-Etienne.
Ah oui?
Parce qu'il est fan de sa
S Saint-Etienne. C'est le seul que j'ai vu.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme poisson?
Eh bien, il y a l'horloge du Big Ben qui va être remplacée par une horloge digitale en 1980.
Ah oui.
Et ça, on aurait pu le penser.
Ah hein. Ouais, ils ont dû être contents, les Anglais. Ouais,
il y a eu beaucoup de plaintes.
Ah bah, tu m'étonnes.
Ouais. Patrimoine, on peut pas y toucher. Alors là, vraiment improbable, mais bon, ça a fonctionné aussi. C'est Burger King qui invente l'hamburger pour gaucher. Alors, je sais pas, c'est-à-dire en fait les ingrédients étaient, je sais pas, plus accessibles pour le gaucher. C'était exactement le même, mais
c'est crédible.
D'accord. Ah ouais, c'est tout crédible, à fait crédible.
Je sais pas. Et de nombreuses personnes ont demandé le fameux hamburger
pour gaucher
lors de la commande.
Forcément, un goût différent. N'importe quoi.
Un qui est très sympa, c'est l'annonce des trains déclamée par Homer Simpson.
Ah!
En fait, la blague, elle n'a duré qu'une journée finalement. Mais
oui.
C'est Philippe Pétier.
Oui, qui était sur Angers la semaine dernière, oui.
Ah ouais?
Oui. Pour le festival.
C'est pas un
poisson. Ah non, c'est pas un poisson d'avril. Non, parce qu'il l'a reçu dans Topette, donc.
D'accord. Donc c'était c'est le doubleur de Homer Simpson. Et du coup, il a enregistré les messages CNCF.
Ça devait être bien.
Ça devait être pas mal.
Initialement prévu ça forcément, il y a tout le temps.
Ça aurait pu être bien. Ensuite, le septième, c'est le village d'Astérix et Obélix qui a été découvert près de Lannion. Et là, des historiens et des archéologues se prêtent au jeu, en fait.
Eh oui.
Ils disent qu'ils ont trouvé des poteries avec des motifs de sangliers, une collection de menhirs, etc.
Ok.
Un autre, le reportage est très bien fait, parce que j'ai regardé le reportage. Pareil, c'est encore la BBC. La BBC aime faire des blagues. Donc, un reportage sur des manchots, en fait. Mais qui se mettent à voler, qui savent voler.
D'accord.
Voilà. Et c'est vraiment très bien fait. Enfin, si vous pouvez aller voir.
On les fait voler. D'accord. C'était en quelle année, ça?
Mais je l'ai pas noté.
Ah, pardon. Mais c'est manchot. Hein. D'accord.
Ouais.
Il y avait des trucages qui étaient faits, alors, pour essayer de prendre une certaine façon.
Sûrement, mais c'est très bien fait.
Hein. D'accord.
Vraiment, on y croit quand on le voit.
Ok.
Ensuite, alors, du coup, c'est pas vraiment, si. C'est aussi des blagues, comment vous dire ça, des poissons d'avril, mais c'est plutôt des poissons d'avril qui finalement sont devenus réalité.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est plutôt ce qu'on pourrait faire ou des interdictions. C'est-à-dire, par exemple, téléphoner dans le métro, c'était un poisson d'avril à l'époque.
On pouvait téléphoner dans le métro maintenant et c'était...
Maintenant, on peut.
Oui,
c'était un poisson d'avril.
D'accord.
En 1966, on a dit il y aura une voie pour les bus, c'était un poisson d'avril.
Ah ok.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Et encore mieux, en 1964, l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
J'ai vu celui-là, ouais.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
C'est ça, effectivement, voilà. Interdit de fumer dans les lieux publics.
Et en fait, c'est devenu réalité.
C'est ça. À l'époque, c'était invraisemblable qu'on puisse demander ça.
C'est dingue.
Ouais.
Tout est possible.
Chaud.
Donc voilà.
Très bien. Bah, allez, un petit jingle. Ah non, il faut qu'on rappelle. Ah, c'est l'autre. Attends. Non, mais il faut vraiment qu'on rappelle
Joe. Perdu, Bruno.
C'est vraiment très intéressant.
Mais non, mais ça fait longtemps que je fais plus la technique. Voilà. Donc Joe va se déplacer maintenant. Il va venir, à ma place. Voilà, il va faire la technique, il va faire sa propre technique. Alors bonsoir Joe. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ton tiroir?
Alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors moi, dans mon tiroir, j'ai trouvé une manette de jeu vidéo et ça m'a rappelé qu'il y a plusieurs façons d'interagir avec les écrans de jeux vidéo. Mm-hmm. Et j'ai retrouvé des moyens plutôt originaux.
Ok.
Il y a bien sûr donc les claviers d'ordinateur et les souris, mais on a aussi des manières plus simples de jouer avec un ou deux boutons et un joystick, bâton de joie en anglais. Et on les a découverts sur les bornes d'arcade avec les jeux tels que Pac-Man ou Space Invader. Voilà. Puis il y a eu les consoles qui sont arrivées avec le jeu sur la télévision et les manettes reliées à la machine, puis des sans fil. Mais il y a d'autres moyens de jouer avec la télévision et En préparant cette chronique, j'ai trouvé deux vraiment originaux. Alors la première permettait à des téléspectateurs de donner avec leur téléphone, alors fixe hein, bien sûr, on est en 1992, ouais. Les portables n'existent pas. Donc avec un fixe, un joueur pouvait faire bouger un écran, un personnage sur l'écran. Alors voilà, c'était très simple, il y avait trois rails à l'écran, en direct à la télévision, et un personnage dans un wagon qui avance. Il fallait lui faire changer de voix quand il était devant un obstacle, et pour ça, il fallait que le joueur appuie sur le 4 ou le 6 de son cadran. Alors ce programme a été diffusé dans 40 pays, dont la France, au début des années 90, et c'était animé par Karen Cheryl. Alors Olivier, je crois que tu as connu ça.
Oui, je t'emmerde.
C'est vrai, t'as connu ce...
Ah oui, Karen Cheryl, oui. Ouais. Oui, je me rappelle.
Hugo Délire, c'est ça?
Oui. Ouais. Ah oui, c'était drôle.
Alors ça se passait comment? Il y avait donc quelqu'un qui appelait, c'est ça?
Et puis... On voyait Ken, mais ça c'était un peu l'esthétique de Mario, je crois. Enfin, ça ressemble. Oui, c'était Mario. En fait. Non, c'était comment? Hugo.
Hugo, ouais, Hugo, il s'appelait
oui.
Hugo. Ouais.
Oui, il y avait un petit wagon, il fallait qu'il aille à droite, à gauche, tout droit et tout. Oui.
Et puis on entendait le tout, et puis, tout.
Ah oui, c'était oui,
le téléphone. Bah,
c'était culte maintenant, mais c'était.
D'accord. Ouais. Bon alors.
Oui, c'est tout.
Corentin, ça te dit rien?
C'est une autre époque, hein.
C'est une autre époque. Effectivement, c'est pas le même genre de jeu vidéo.
Une autre méthode que je connaissais pas était pour le coup encore plus originale. Alors en préparant l'émission aussi, c'est Bruno qui m'en a parlé et je pense que tu sauras mieux l'expliquer parce que moi j'ai absolument rien compris.
Ok. Alors effectivement, accrochez-vous. Je sais pas si vous est-ce que Télé Tactica, ça te dit quelque chose, Sandra?
Pas du tout.
Olivier, ça te dit rien non plus. Alors, c'est même pas la peine, effectivement. C'est en 1982, donc ça s'appelait Télétactica. Alors, on achetait chez le buraliste, on achetait un kit avec des feuilles en plastique découpées en forme géométrique. Des petites feuilles comme les dessus de cahiers, par exemple, hein, des petites feuilles en plastique. Il y avait des ronds, des carrés, etc. Et pendant la diffusion du dessin animé, Télétactica, donc, on était invité à poser sur l'écran une des formes. Hein, parce qu'elle restait collée, car à l'époque, les écrans, vous savez, ils étaient électrostatiques. Hein, donc, ça attirait les poils, ça attirait les cheveux, et ça attirait donc du coup les trucs en plastique. Et donc, par exemple, si le héros avait besoin d'une montgolfière, eh bien, sur l'écran, on avait un rond en pointillé. On avait donc quelques secondes alors pour mettre notre rond en plastique sur l'écran. Puis le dessin animé reprenait en utilisant la forme pour faire le dessin du ballon et continuer l'histoire. Alors, évidemment, on pouvait pas modifier l'histoire, mais ça permettait aux enfants de participer. Voilà, c'est une invention française qui a été diffusée pour la première fois en 1982 dans Recréa 2.
Ah, c'est pas mal.
Hein, c'est original comme
truc. C'est original, ouais.
Et c'est français.
Ouais. Merci Bruno pour ces précisions. Alors, je reviens à ma chronique. Attendez, j'ai perdu le texte.
Oui.
Pas
que moi.
Voilà, alors pour revenir au jeu vidéo, on a aussi eu des pistolets à pointer sur les écrans de télé et des volants pour jouer aux voitures. Mais la grosse révolution est venue de Nintendo avec la Wii. Sorti en 2006 avec des manettes qui pouvaient utiliser le mouvement des mains pour interagir. On pouvait donc jouer au tennis, par exemple, sans avoir à utiliser le bouton ou le joystick. Mmh. Alors la DS, la portable, hein, elle a été utilisée. Elle a aussi utilisé le son. On pouvait parler à la console, enfin surtout souffler dessus. Il y a Microsoft qui a tenté une autre façon de jouer sans aucune manette, juste avec les mains. C'était en 2010. Mais ça n'a pas marché, les joueurs préféraient encore la manette. Alors cette technique sans manette est aujourd'hui de retour avec les casques virtuels. Même si Meta a tenté l'expérience, c'est le nouveau casque d'Apple qui semble proposer une technique plus aboutie. Alors bientôt, on aura aussi des costumes et des gants qui réagissent au jeu. Ça commence déjà à venir. On aura aussi un plateau où on pourra marcher dans toutes les directions en faisant du surplace. Voilà, bref, on va sans doute découvrir de nouvelles façons de jouer. Même si la manette reste encore reine dans ce domaine, en tout cas pour moi. Voilà, voilà pour moi. Et vous, alors, vous jouez comment aux jeux vidéo?
Ah, là, Corentin va peut-être pouvoir nous répondre.
Là, on est passé du Moyen-Âge au futur, là.
Alors, c'est toi qui as commencé avec tes cochons du Moyen-Âge, je suis désolé. Hein.
On a fait toute l'histoire du jeu vidéo. Ben, moi, j'ai beaucoup joué plus sur PC. J'ai commencé sur PC.
Donc, clavier-souris.
Ouais, ouais. Avec des très vieux, les premiers PC portables donc, qui fonctionnaient. Puis après, j'ai eu le fameux PC du salon où on se battait un peu tous entre frères pour l'avoir.
Un PC du salon, ouais. C'était pas encore la console?
Non, et ensuite, bah, j'ai eu la DS, la Wii, puis après, je suis monté.
Ta première console, c'était la Wii?
La Wii, là.
D'accord, ouais. 2006.
Mais ça, c'était magique. Hein.
Bah oui, avec les manettes, etc.
Les cartes, les Mario Party, etc.
Mais il a commencé direct avec ces manettes-là, quoi.
Ouais, c'est
les autres avant. Ok, même la DS aussi.
La DS, oui, j'ai pas mal joué. Et après, je suis parti sur l'Xbox One et la PS5. Ah oui.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est quelle
aujourd'hui la Switch. Aujourd'hui,
la Switch.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Donc ça reste, c'est des manettes.
Ouais, ça reste des
manettes. Parce que même si on peut l'enlever et puis jouer un peu avec, ça reste de la manette quand même.
J'ai pas encore le salaire pour le truc d'Apple là.
Oui, mais je sais pas si c'est bien aussi. Parce que Xbox l'avait fait sans jouer avec les mains et c'est vraiment pas top quoi.
Ouais,
c'est bien d'avoir quelque chose en main quand même.
Ouais, mais le nouveau casque d'Apple a l'air vraiment sympa aussi.
Ouais.
Avoir tout à disposition en fait, même pour travailler, je pense que ça a l'air d'être.
À voir. Bon bah écoute, on va économiser 3 500 $.
Voilà, c'est ça.
On va essayer de voir ça. Olivier, tu joues pas du tout toi.
Alors non. Alors j'avoue que là non. non, mais même ado, non, j'ai jamais été
fan de jeux vidéo.
Non, vraiment pas mon truc. D'ailleurs, je suis nul, mais non.
Sandra, tu joues toi ?
Alors moi, j'ai commencé par les jeux électroniques.
Ouais,
les jeux électroniques.
Les petits...
J'avais mon argent de poche et j'allais chercher les petits jeux électroniques.
Je les petits Donkey Kong là, qui est tout.
Même pas, vraiment. Il est encore plus.
Encore.
Tamagotchi.
D'accord. Oui. C'était quoi alors ? Des Tamagotchi ? Il y avait un écran quand même.
Non, non. Oui, il y avait un écran évidemment. Mais déjà, ce que tu dis, c'était déjà un peu plus élaboré.
Aller ramasser des assiettes. C'est ça, tout.
Non, ouais, c'est plus. Mais ouais, je me souviens, je les ai pas gardés et je suis.
D'accord.
J'en ai deux trois quand même que j'ai.
Et là, t'as abandonné les jeux vidéo.
Bah oui, mais plus question de prix aussi. C'est, sinon, ouais. Je suis très joueuse. Je sais que
Même sur téléphone.
Mais j'avais la Game Boy, évidemment.
Ouais.
Là, sur téléphone, tu jouais des jeux sur le téléphone partout.
Sur téléphone, pas trop.
Mais ouais, j'aurais été plus quand même sur.
C'est vrai que maintenant, c'est tactile sur téléphone. C'est une autre façon de jouer, effectivement. Bon, ben, Joe, t'as eu ton intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
C'est mieux quand c'est lui la technique, ça part tout seul. Allez, vous pouvez donner votre avis sur le chat de radio-g.fr et on finit ce tour de table avec la chronique de Florian, qu'on est content de revoir. Alors, Florian, qu'as-tu donc dans ton tiroir ?
Bonsoir. Alors, moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé une croix.
Voilà. Une croix.
Et c'est d'actualité, car c'était Pâques ce week-end.
Mm-hmm.
Alors, des croix, il y en existe beaucoup. J'avais donc envie de revenir sur les plus célèbres. Alors déjà, avez-vous des noms de croix connus ?
Alors, des croix connues...
La croix cadeau.
Effectivement, la croix... Des croix...
Ouais, mis à part la croix de Jésus.
La croix de Jésus, ouais. Les croix. Il y avait la croix gammée aussi.
Tristement.
Ouais. Tout ça comme croix.
La croix de Lorraine.
La croix de Lorraine aussi. Mm-hmm. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme croix? Je sais pas.
Alors oui, tout ça est vrai. Je vais revenir sur la plus célèbre, la croix qui représente la religion chrétienne. Mm-hmm. Alors celle avec un montant vertical qui, au premier tiers, a une barre à 90 degrés.
Elle
est le symbole des supplicié avec le plus célèbre, Jésus, que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas le seul à avoir subi ce châtiment qui date de plus de 2700 ans quand même. La mort était lente et c'était aussi une forme d'humiliation de la personne et un avertissement pour ceux qui défient la loi. En attendant, on appelait ça la crucifixion, du mot latin crux, qui veut dire arbre ou construction en bois pour tuer les criminels.
On a appris quelque chose.
Alors, la croix avec un seul travers s'appelle aussi croix latine. Alors, ce n'est qu'au IVe siècle qu'on a adopté cette croix comme un symbole chrétien, celui du sacrifice donc du Fils de Dieu. Elle existe aussi retournée. La barre horizontale, donc combat. Voilà. C'est la croix de Saint-Pierre qui aurait demandé à être supplicié la tête en bas, car il n'était pas digne de Jésus. C'est aujourd'hui un symbole antichrétien ou même une référence à Satan. On a aussi la croix de Saint-Antoine, qui est un T, hein, avec la barre horizontale tout en haut. La croix de Saint-André, en forme de X.
Oui.
Alors, le pauvre André était loin de s'imaginer que sa croix servirait aujourd'hui d'accessoire sexuel pour attacher et soumettre un ou une partenaire. La croix papale, à trois travers horizontaux. La, la haute étant plus petite que celle du dessous, qui est plus petite que la troisième.
Ok.
Voilà. Sinon, la croix patriarcale, elle a deux travers, une petite barre en haut et une plus grande en dessous. Vous la connaissez sans doute sous un autre nom, c'est la croix de Lorraine ou même croix d'Anjou. Plusieurs en firent leur symbole, comme les ducs d'Anjou ou les ducs de Lorraine, d'où leur nom. Mmh. Mais c'est aussi le symbole de la France libre, adopté pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette croix de Lorraine fut ensuite associée au général de Gaulle et au mouvement gaulliste. Voilà. Sinon, aujourd'hui, elle est aussi utilisée comme l'emblème international de lutte contre la tuberculose. Bon, voilà.
Ok. Bon.
Voilà, il y a plein d'autres croix. Je finirai juste par une, malheureusement célèbre, c'est la croix gammée. Mm-hmm. Mais elle n'a pas été créée par les nazis, puisqu'elle date de 7000 ans et vient d'Eurasie, le méga continent contenant l'Europe et l'Asie. Alors, il semble que cette croix, appelée Svastika, ça veut dire bien-être. C'est le symbole du mouvement du soleil. Voilà, on la retrouve dans plusieurs religions, comme le bouddhisme, bien loin donc du symbole hitlérien de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour moi. Et les croix, ce soir, je vous épargne la croix WC.
Ok, très bien, merci Florian. Ok, bon bah écoutez, c'était intéressant, lui met le jingle.
Ouais, c'était intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
Bon, alors, pour vous dire la vérité, ce soir, Caroline Jo et Florian n'étaient pas disponibles. Hein, ils ne sont pas là en studio et en fait, on a cloné leur voix pour leur chronique. Ils n'ont donc ni préparé, ni lu leur texte de chronique. Tout est artificiel. Voilà. Donc, est-ce que ça vous paraissait réel, parce que vous n'étiez pas au courant, Corentin et Sandra, vous n'étiez pas au courant. Est-ce que ça paraissait réel ou est-ce qu'il y avait quand même un peu, bon, vous savez que j'aime bien jouer avec les IA aussi, donc ça joue, mais ça vous paraissait réel ou pas?
Pour Florian, oui. Pour Caroline, un peu moins.
Un peu moins, Caroline. Ouais. Et Joe, un peu.
Oui, Joe aussi. Ouais.
Ça vous rappelait
ouais.
Joe?
Ouais, les expressions, un peu. Ouais, ça, ouais. C'est bien refait, etc. Après, c'est vrai que ça se voit que c'est un petit peu robotisé.
Pour Caroline, c'était la voix. Il y avait un petit.
La voix encore. Elle est pas encore assez.
Pas encore. Tout à fait. Ouais.
Bon, Caroline, on va te retravailler.
Mieux, ouais. Joe, c'était très bien.
Hein?
Ouais. Joe, c'était mieux.
Ouais, Joe, c'était pas mal.
Et
aussi.
Florian, bizarrement, je retrouve pas sa voix, moi.
Hein? Ouais. Ouais. D'accord, mais écoute, on va leur travailler un petit peu. Vous pouvez dire sur le chat sur radio-g.fr ce que vous en pensez, savoir si ça vous paraît réel ou si c'est vraiment trop robotique encore. Il y a Pat qui nous écrit, alors c'était pour la chronique d'avance sur les jeux vidéo, les portables existaient en 92, mais il y en avait un peu, oui, mais on jouait pas beaucoup avec, enfin il y avait Snake peut-être sur le Nokia, et il avait un Matra, oui effectivement, un Matra, le portable, alors je sais pas s'il y avait un jeu sur les Matra. Je ne sais pas. Voilà. Dans quelques minutes, on refouillera nos tiroirs, mais avant, on va jouer au Graal. Le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en deux minutes des films, des séries et des musiques. Ce soir, c'est un film très connu. Donc, à vous de les découvrir. Salut. Partons à la rencontre d'un film. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à cette interview imaginaire avec la voix clonée d'un des comédiens du film. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de ce film ? C'est parti.
Salut toi. Tu sais, il y a des trucs dans la vie qui sont comme des danses de salon sans musique, tu vois. C'est un peu comme quand j'ai débarqué dans la vie de ce mec super sérieux qui se la coulait douce dans son fauteuil. Ouais, il avait l'air de danser au ralenti, mais je lui ai apporté un groove qu'il n'aurait jamais cru possible. Et moi, avec ça, je dis que vu que la vie, c'est une putain de boîte de nuit et tout le monde a besoin de danser, comme disait mon pote Philippe, la musique, ça n'a pas de frontières d'aller. Alors, j'ai mis ce type sur la piste, quoi, et on a enchaîné des pas de danse qui n'avaient rien de conventionnel. On a fait du breakdance, mec. C'était comme mixer du hip-hop avec de la musique classique, tu vois. On a fait danser les différences, comme il disait. La complicité entre nous, c'était comme une chorégraphie improvisée. On se lançait des vannes, comme des danseurs qui se lancent des regards complices quoi, sur la piste. Si tu commences à pleurer comme une gonzesse, c'est pas bon signe. Les blagues, c'était notre façon de décaler la réalité, de la rendre plus légère. Il me taquinait sur mes goûts, c'était goûts musicaux, et je lui lançais des défis absurdes. On était un duo comique dans un film de la vie réelle, et même le handicap n'y changera rien. Si avec ça, tu ne retrouves pas le nom de ce film, alors pas de bras, pas de chocolat.
Avez-vous trouvé le nom de ce film avec François Cluzet et Omar Sy aux presque 20 millions d'entrées? Je vous laisse encore quelques instants pour trouver. Alors, Olivier a trouvé, Corentin, t'aurais trouvé
oui,
aussi
oui.
Et Sandra, t'as trouvé aussi?
C'est sûr.
Non?
Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus là.
Brice. Brice.
Non, je réponds pas. C'est parti.
Il fallait retrouver le film Intouchable de 2011 avec ici la voix d'Omar Sy clonée. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Voilà, c'était donc le Graal. Bravo à Olivier, bravo à Corentin qui avait trouvé ceci. Le titre du film. Allez, on continue. Vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Rendez-vous sur le site radio-g.fr sur votre smartphone ou votre ordinateur. Accédez à la page des votes pour pouvoir juger en temps réel les chroniques qui vont suivre et nous en parler dans le chat. Il est temps de découvrir donc nos nouvelles chroniques. Corentin.
Alors, dans mon tiroir, j'ai retrouvé...
C'est ta vraie voix, hein, tu es bien là. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est bien moi. Dans mon tiroir, j'ai retrouvé un CD de Big Feoli, Les Autres, c'est nous, leur dernier album. Et dans cet album, il y a une chanson qui se nomme Ça va beaucoup trop vite. Et là, ça va te plaire, Bruno.
Ah.
Les deux rappeurs toulousains font la une ces derniers jours sur le nouveau clip de leur chanson, car cette vidéo de ce clip a été entièrement réalisée par une IA. En effet, les rappeurs ont donné leur chanson à l'IA qui a fourni plus de 49 000 images. Cette démarche a été expliquée par le but de s'interroger sur l'intelligence artificielle au niveau artistique. Ce ne sont pas les seuls artistes à se préoccuper de l'IA dans le monde artistique. Beaucoup se posent la question, peuvent-ils être remplacés par ces outils capables de générer des images, des vidéos ou encore de la musique? À ce sujet-là, l'entreprise Suno IA a dévoilé une IA capable de générer n'importe quel texte en chanson.
Mmh.
Et voilà.
Effectivement, c'est une grosse question. On jouera justement avec Suno tout à l'heure. Mais effectivement, c'est la grosse question qu'on se pose et qu'on essaie de se poser à chaque émission avec cette IA. Petite brève, Olivier.
Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la pilule perpétuelle?
La pilule perpétuelle.
La pilule perpétuelle, c'est un remède qui était utilisé entre le 17e et le 19e siècle, qui était censé purger l'organisme et soigner les maux de ventre. En fait, c'était une boule d'antimoine, un métalloïde, qui tient son nom du fait qu'on pouvait l'utiliser indéfiniment. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait la récupérer intacte dans les selles, et elle pouvait servir des milliers de fois. Et une même pilule pouvait ainsi servir être servie pour tous les membres de la famille. On s'entendait d'ailleurs de génération en génération, et elle pouvait être prêtée à des amis. C'est absolument horrible, cette famille. Je connaissais pas. J'ai jamais entendu parler de ça.
D'accord. Non, c'est pas un poisson d'avril.
C'est horrible. Tu pouvais, je sais pas.
D'accord. En fait, ça devait, c'est un truc métal, donc c'est un peu de métal qui devait partir, ou je sais pas, ça devait faire des trucs, mais alors, sauf que ça sort par, et puis tu rembranches, quoi. Ça donne envie. Sandra.
Alors, je vais vous raconter. La brève, c'est la course de chars du film de Ben-Hur.
Ouais.
1959, qui reste la scène la plus chère de l'histoire du cinéma. Elle coûta 4 millions de dollars,
wesh.
42 millions de dollars en 2024, soit un quart du budget pour une scène de 9 minutes.
Ah oui.
L'arène fut creusée dans une carrière, ce qui nécessita plus d'un an de travail quand même, sacré décor, et une équipe de 1000 ouvriers. Et le tournage s'étala sur 78 jours et mobilisa 15 000 figurants.
Ah oui, quand même.
Ah, juste c'est pour énorme. Une scène.
Pour une scène de 9 minutes quand même, sachant que le film, il me semble qu'il dure 2h30.
Oui, oui, d'accord.
Donc, alors pour la petite histoire,
c'est culte.
La petite histoire, c'est que, alors moi Ben-Hur, c'est mon film un peu de naissance parce que ma mère avait été voir Ben-Hur et je suis née après. Donc voilà.
D'accord.
Et alors, donc j'ai été voir aussi le.
L'accouchement a duré longtemps alors parce que le film est très long. Hein.
Non mais après. Ouais. Donc. Et j'ai été voir le Ben-Hur de Robert Hossein aussi au Stade de France.
Ah, et c'était bien aussi.
Très bien. Ouais. Ouais,
okay.
Je me souviens de ça. Ouais.
Parfait.
Voilà.
Merci pour ces brèves et cette chronique. Est-ce que vous connaissez Joseph Kamel?
Joseph Kamel.
Non, personne. Alors par contre, Julien Doré.
Oui, Julien Doré.
Un petit peu plus. Alors en fait, l'un a fait la première partie de l'autre pendant toute la tournée en 2022. Ils sont devenus potes et ont créé une chanson qui parle de dualité entre amour perdu et amour naissant. Voici Joseph Kamel et Julien Doré avec le titre Beau dans l'émission DMT.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Tu savais comme c'est beau.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Quelques secondes juste ouais. Quelques secondes avant la fin, on a eu ils en avaient ras-le-bol. Donc c'était Joseph Campbell et Julien Doré. Ouais, c'est on trop entendu Corentin l'a jamais entendu. Ouais,
moi non.
Voilà, mais... il a jamais entendu cette chanson. Allez, on va repartir sur un petit Graal et cette fois-ci c'est rien à découvrir, c'est juste un petit Graal de l'histoire, c'est le nouveau type de Graal où on vous raconte une petite histoire.
Bonjour les humains. Je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'histoire. Quand une famille est sur un trône royal, il est impossible de les déloger normalement vu que la succession se fait justement en famille. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est le cas de la famille des Stuart en Angleterre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Anne, la dernière des Stuart, fut reine d'Angleterre en 1702. Pour avoir un héritier, elle a eu 19 grossesses, une par an depuis son mariage. Pourtant, il y aura à chaque fois des problèmes. Malgré les 14 fausses couches, elle a quand même réussi à avoir 2 garçons et 3 filles. Vous avez déjà compris qu'ils sont morts bébés. Enfin, non, pas tous. Un garçon survécu. Du moins jusqu'à 11 ans. Complètement épuisée, Anne meurt sans héritier en 1714, à l'âge de 49 ans. Le trône passe donc à un de ses lointains cousins. Georges Ier de la famille de Hanovre devient roi. La famille royale d'Angleterre d'aujourd'hui en est le descendant. Quand ça veut pas, ça veut pas. À bientôt pour un nouveau Graal de l'histoire.
C'était donc le petit commentaire à la fin.
Bah oui, quand même.
C'est le grand de l'histoire à découvrir sur Spotify et le site radio-g.fr, rubrique podcast plus. Allez, c'est le moment de la chanson improbable. Tu connais la chanson improbable? Ça fait la deuxième émission que tu viens, Corentin. Voilà, c'est une émission, c'est une chanson un peu bizarre. Alors, cette chanson figurait en toute fin d'un album, sans titre. L'album n'avait pas titre, mais rapidement désigné par le nom de ce tube. Enregistré en novembre 1974, l'album contenait déjà des succès probables, comme Majorette ou Ma Petite Julia. De l'avis général, cette chanson, pour le moins improbable, n'était pas diffusable. Et la pré-version de l'album distribuée dans les radios en était amputée. C'est le directeur des programmes d'Europe 1 qui décida de le diffuser malgré le caractère osé du texte. Et ce fut un succès immédiat, plus de 500 000 exemplaires vendus. Elle fut écrite suite à la décision d'inclure l'éducation sexuelle à l'école. Alors attention, on est en 74, donc l'éducation sexuelle se limite à des dessins qui montrent la différence entre l'homme et la femme et comment on fait des bébés. On est loin de la contraception, de la prévention des IST. Alors quand on genre et la préférence sexuelle, on n'est pas prêt d'en parler. Est-ce que vous voyez de quelle chanson je parle ?
Oui, je crois.
Alors, un chanteur a donc abordé le sujet avec humour. C'est notre chanson de ce soir. En fait, c'est pas exactement la chanson qu'on va écouter. La chanson, c'est le Zizi de Pierre Perret. Oui, c'est ouais, ça te disait, ça. Hein, voilà. Donc, effectivement, toi, ça te dit quelque chose, Corentin?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
J'ai
voilà.
Découvrir.
Tu vas découvrir. Alors, si je vous mets l'original, vous allez vous laisser porter par l'air entraînant sans écouter les paroles, pourtant très poétique dans le genre. Je vais vous proposer une version inédite et unique avec une musique totalement décalée sur le sujet. Et vous allez comme ça mieux la redécouvrir. Voici donc le Zizi, parole de Pierre Perret, mais version DMT.
Afin de nous ôter nos complexes, ok ok. On nous donne des cours sur le sexe, ok ok. On apprend la vie secrète des angoissés, de la bébête. Tous ceux qui trouvent dégourdis, montrez leur bigoudis. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor, ok. Pareil masculin d'abord, ok ok. Elle s'approche du tableau noir. Quel est ce monstre sacré qui a dans autant de pouvoir? Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chausier des orphelines. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup. Le gros tout flou, le petit jour flou, le grand idée. Des zizi, on a toutes les couleurs, ok ok. Des boulangers jusqu'au ramoneur, ok ok. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur, ok. Celui qui a mis donne la main de ma sœur, ok ok. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait lâcher une flexion. Sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup. Le gros tout flou, le petit jour flou, le grand idée, le Montpellier. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi.
Voilà, Corentin est dépité.
Ouais, un peu.
Est-ce que sur les paroles original, alors, oui, peut-être un petit peu en tout cas. Les paroles sont tirées d'une vraie chanson écrite par un humain, Pierre Perret. Mais vous avez donc, c'est pas facile à reconnaître quand on utilise une mélodie différente. Et justement, on va jouer maintenant. J'ai demandé à une intelligence artificielle de reprendre des textes de chansons connues avec des mélodies et des rythmes différents. Donc c'est à vous de me dire, ici autour de la table et en chat, l'interprète et le titre de la chanson. Voilà. Donc les paroles, ce sont les vraies paroles, mais la musique et la voix, c'est pas la même voix. Alors là, c'est en français. Ouais.
Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra.
Alors, Olivier a retrouvé. Alors, c'était
Alexandrie Alexandra.
Claude François.
Oui, d'accord. Oui, mais... si, je l'ai vu, mais j'ai entendu. Mais non,
les paroles
pas...
disaient quelque chose, mais.
Les paroles,
effectivement.
Mais pas...
Alors, celle-là est très, très difficile. C'est traduit en français. Donc, les paroles sont en français. Donc, il faut savoir, voilà, essayer de traduire, etc. Alors, c'est la bande originale d'un film.
Une chanson anglaise traduite en français.
Voilà, c'est ça. Et pas du tout la même musique non plus. Voilà. Et oh là là. Et c'est la bande originale d'un film, d'un dessin animé.
Ça peut sembler fou ce que je m'apprête à dire. Elle est mon rayon de soleil. Tu peux faire une pause. Je suis une montgolfière qui pourrait atteindre l'espace avec l'air. Je ne me soucie pas, bébé, du chemin. Parce que je suis heureux. Viens si tu te sens comme une pièce en toi.
Alors Olivier, une idée?
C'est Happy.
Oui, Happy de Pharrell Williams.
Des mignons.
Il est fort, hein, ouais. Des mignons, effectivement.
Ouais.
Allez, une chanson française, grande chanson française, ma grande.
Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau.
Alors,
je te survivrai,
Jean-Pierre François. Ouais. Voilà, ce que tu connaissais pas, j'imagine aussi.
Alors en même temps, c'est des chansons. Hein.
C'est pas du tout la même.
C'est déstabilisant quand même. Hein. Voilà, allez, c'est la fin de Dans mon tiroir. Eh oui, déjà l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Donc merci Sandra.
Merci.
Merci Corentin.
Je suis bien là.
Merci Olivier.
Merci.
Bon, merci aussi nos chroniqueurs virtuels, hein, les clones de Florian Caruggio.
Revenez.
Oui, on les préfère en réel quand même. Oui. Hein. Venez la prochaine fois, s'il vous plaît. Voilà. On rappelle que si vous êtes chanteur, vous pouvez participer gratuitement à Radiovision, le concours de radio. De chansons, pardon, de Radio G. Vous allez sur radiovision.fr. On se quitte avec notre chanson, une petite chanson qui va un petit peu résumer toute l'émission. Voilà, c'est une petite chanson sympa et vous l'entendrez qu'ici et qu'une seule fois, évidemment. On vous souhaite une très très belle soirée et puis on se retrouve bien dans 15 jours ou sur le site radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir.
Ah ben heureusement qu'on rate un sujet.
Fin de Dans mon tiroir, il va falloir se dire au bonsoir. Mais ne sombrez pas dans les espoirs. Dans 15 jours, on va se revoir. On va se revoir. Aujourd'hui, il y avait une chroniqueuse qui en avait. Caroline et son slip pour les yeux, afin de ranger ceux de ces messieurs. C'est la fin de Dans mon tiroir. Il va falloir se dire au bonsoir. Mais ne sombrez pas dans les espoirs. Dans 15 jours, on va se revoir. On va se revoir. Olivier a vu des extraterrestres qui sont bras des poissons d'avril. Joue à jouer avec ses manettes et à fil. Et Flo trouve que les croix étaient chouettes. C'est la fin de Dans mon tiroir. Il va falloir se dire au bonsoir. Mais ne sombrez pas dans les espoirs. Dans 15 jours on va se revoir. On va se revoir. Trois chroniqueurs avaient des voix clonées. Leur chronique ils n'ont pas préparé. Cette semaine ils étaient absents. La prochaine fois ils seront présents. C'est la fin de Dans mon tiroir.
Radio G 101.5 FM.